de 78 à 89. Il dirige le lance-roquette sur moi, là c'est... Merci. Oui, donc nous sommes restés ici 11 ans. On m'avait demandé de venir ici pour prendre la responsabilité de l'Église. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, nous avons quitté la Bretagne. Nous avons pas mal voyagé. J'étais, avant d'être retraité, j'étais commercial. Donc, quand on est commercial, on se déplace beaucoup. On déménage souvent. Et nous avons atterri il y a 24 ans à Saint-Étienne. Et voilà, donc il y a une église apostolique à Saint-Étienne. Et donc on était très contents d'être là-bas. Et puis il y a environ 5 ans, 6 ans, notre pasteur est parti. Et nous sommes trois anciens sur place. Moi, que j'étais déjà à la retraite, on m'a demandé si je voulais prendre la charge pastorale tout le temps de trouver un nouveau pasteur. voilà, j'ai accepté la fonction, mais c'est vrai que, bon, c'était pas trop évident quand même. Et j'ai appris que Serge Play était venu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous l'avez vu, donc il est probable que ce soit lui qui un jour prenne la charge. Donc nous sommes en pourparlers, nous sommes en recherche, à savoir si, ça va. Si pour lui, c'est le chemin que le Seigneur a choisi pour lui, est-ce que c'est ça? Donc, de temps en temps, il vient nous rendre visite. Et malheureusement, j'ai appris que ça ne pourrait pas se faire avant 2017, apparemment. Moi, j'étais content de pouvoir prendre ma retraite. une deuxième retraite, en fait. Alors voilà à peu près la situation de Saint-Étienne. Et puis entre-temps, j'ai pris la charge aussi d'aumônier, il y a un petit peu plus de 3 ans et demi. Je suis aumônier en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Et c'est une charge qui me va bien. Et je suis très heureux de la faire, de cette charge, parce que c'est un moyen aussi de partager sa foi, c'est un moyen de partager l'évangile, tout en sachant qu'on ne peut pas faire de prosélytisme dans un hôpital, d'ailleurs comme en prison non plus d'ailleurs, mais on a quand même le droit de, si le malade est demandeur, eh bien de sortir sa Bible et d'échanger, de lire, de prier si la personne le demande. Et nous sommes une cinquantaine d'aumôniers quand même dans ce CHU. Alors en psychiatrie on n'est pas nombreux, on est 5. C'est un secteur qui n'est pas très, très sollicité par les aumôniers. Mais j'avoue que c'est une... comment dirais-je? C'est très attachant de pouvoir parler avec ces personnes. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elles viennent nous voir, parce qu'en fait, on ne va pas dans leur chambre. C'est elles qui viennent avec l'autorisation des psychiatres, bien sûr. Donc on a une petite pièce et on s'assoit autour d'une table. Et j'avoue qu'ils nous apportent des choses. Autant que nous, on peut leur apporter quelque chose. Et ça, c'est important dans le contact. Il y a une communication, il y a une réciprocité dans le contact, dans l'approche. Et on repart, j'allais dire, aussi rempli qu'eux. Enfin, on espère qu'on leur apporte quelque chose. Alors moi, je préfère aussi ça parce que, en médecine générale, les aumôniers vont de service en service et vont dans les chambres, bien sûr, lorsqu'on leur donne l'autorisation, parce qu'il y a des malades où on ne peut pas rentrer, bien entendu, parce qu'ils sont soit contagieux, soit parce que c'est pas possible de parler avec eux. Alors que là, lorsque le malade vient vers nous, il sait où il vient, déjà. L'approche n'est pas la même. Le contact ne peut pas être pareil. Voilà le petit partage que je voulais faire, parce que je pense que c'est quand même important de pouvoir aussi partager l'évangile avec toutes ces personnes. Il n'y a pas de limite, Dieu est venu pour tous. Car quiconque croit en lui, car quiconque. Donc c'est tout homme et toute femme a le droit d'entendre parler de l'Évangile et de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vous propose c'est qu'on aille conquérir Canaan. C'est pour ça que je voulais vous lire un texte dans le chapitre 13 de Nombre. On va lire tout le chapitre, peut-être je sauterai un passage parce que c'est le passage au verset 4 qui énumère tous les chefs de tribus qui sont appelés, parce que ça n'est peut-être pas nécessaire de lire tout cela. Donc on va lire tout le chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le puits de Canaan, car je donne aux enfants d'Israël. » Que je donne aux enfants d'Israël. « Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et voici leur nom. Donc je passe et j'arrive au verset 16. Il dit « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et il leur dit « Montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahimam, Sheishai et Talmai, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoa en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent aussi auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Alors je vous propose c'est de relire d'abord les deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Donc là, on a un ordre qui est très clair. 12 hommes doivent partir explorer cette contrée que, bien entendu, ils ne connaissaient pas. Le pays qu'ils connaissaient, c'était l'Égypte. C'est de là qu'ils venaient. Dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette injonction, Dieu fait une promesse. Le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël, le pays que je donne aux enfants d'Israël. Cette façon que Dieu a de s'exprimer quand il parle à son peuple revient souvent dans la parole de Dieu. Quand il parle, il y a une affirmation, il n'y a pas d'hésitation. Ça rappelle les 10 commandements, je devrais dire les 10 paroles. Ces lois ont été données pour le bien de son peuple, pour le bénir. Vous savez que le mot bénir, ça vient du latin, qui signifie dire du bien. Quand Dieu nous bénit, c'est parce qu'il dit du bien, parce que Dieu s'exprime, sa parole s'exprime, et il nous bénit, il dit du bien. Et dans les commandements, dans les paroles, il est dit « Honorer ton père et sa mère, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages. » Ça ne peut que contribuer au bonheur des personnes qui sont concernées. Quand ces ordonnances sont mises en pratique, c'est ce qu'on appelle l'amour fraternel. Il y a déjà l'amour dans ces paroles, dans les commandements. Il y a donc, pour résumer, je dirais, derrière ces ordonnances ou paroles, une profonde intention de bénir le peuple. Et c'est la même chose dans le texte que nous avons lu au début. Derrière l'ordre de visiter cette région avec le but de conquérir, bien entendu, c'est sûr, Dieu désire octroyer ce territoire aux enfants d'Israël. Le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alors, il y a différentes façons d'interpréter, bien sûr, ces deux versets. Le premier est de considérer que c'est une introduction aux événements qui suivent, à savoir d'abord l'exploration, bien entendu, puis le rapport qui engendre l'inquiétude, parce qu'ils ont une façon de présenter les choses qui, forcément, engendre l'inquiétude, qui déclenche les murmures parmi le peuple de Dieu. Et pour finir, les conséquences terribles qui en découleront, c'est-à-dire 40 ans de désert. La deuxième interprétation, c'est aussi, mais Moïse a-t-il bien fait de donner cet ordre, de prospecter cette région, d'aller espionner, parce que ce sont des espions en fait, hein. Surtout que déjà, certains émettaient déjà à partir du chapitre 12 des doutes sur la validité de son autorité. Et puis ce n'était pas des moindres, hein, c'était quand même Marie et Aaron. Quand on lit le chapitre 12, on s'aperçoit qu'eux-mêmes mettaient des doutes sur son autorité. Alors par contre, je pense qu'il est quand même important de replacer les deux versets dans leur contexte. L'ordre n'était pas un ordre humain, c'était un ordre divin. Même si c'est Moïse qui s'exprime, c'est d'abord Dieu qui est derrière là, derrière cette parole. C'est un ordre que Dieu a donné. Dans ces deux versets, je dirais que la valeur spirituelle de cet ordre est considérable. C'est l'avenir de tout un peuple qui est en jeu. Seulement, on connaît la suite. Une grande partie des personnes qui ont vécu en Égypte ne découvriront jamais le pays de Canaan. Dans les versets 4 à 15, nous avons donc la liste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des 12 hommes qui sont choisis, un seul par tribu, bien sûr. Et au verset 16, on découvre que Moïse va décider de changer le nom de Osée. Et Osée, ça veut dire sauve. Il va l'appeler Josué, qui signifie l'Éternel est salut, ou l'Éternel sauve. Ça donne une ampleur, une profondeur, une force à son nom qu'il n'avait pas. l'Éternel, Dieu, est impliqué dans son nom, cette fois. Ce n'est pas simplement Josué qui va là-bas, mais c'est Josué au nom de l'Éternel qui va là-bas. Alors, la Bible ne dit pas pourquoi, mais on peut interpréter les choses un peu de cette manière. En tout cas, je trouve que l'impact est beaucoup plus important. Et c'est vrai que cette décision de changer son nom est prophétique d'une certaine manière. Puisqu'à la fin du compte, qui c'est qu'on va retrouver ? Josué et Caleb. Ensuite, au verset 17 à 24, Moïse va donner des consignes aux explorateurs. D'abord, chercher à identifier, bien sûr, qui sont les peuples qui habitent cette contrée, ces territoires. Si les habitants sont nombreux ou pas. Si le pays est bon ou mauvais, voir si les villes sont ouvertes ou fortifiées. Vous savez, des villes ouvertes, ça signifie qu'on peut entrer et sortir comme on veut, qu'il y a une liberté de circulation, qu'il y a quelque part la paix. Quelque part on peut sereinement se déplacer. Et c'est vrai qu'à l'époque, des villes non fortifiées n'avaient pas beaucoup. Une grande partie des villes étaient fortifiés, c'était même des mini-royaumes, c'était des mini-états, ils avaient chacun leur roi, chaque ville avait son roi, chaque ville avait son gouvernement, sa justice, son armée, etc. Pourquoi ? Parce que les villes d'à côté voulaient conquérir la ville qui était ailleurs, etc., pour faire grandir son royaume. Et là, malheureusement, ils découvrent que ce sont des villes fortifiées, forcément. Donc, ça signifie que c'est un pays où il y a plutôt il y a des guerres, des batailles, des esprits conquérants à droite à gauche, des gens belliqueux finalement, des gens qui ont des villes où ils sont toujours sur le qui-vive, sur les murailles en train de voir s'il n'y en a pas une armée qui va venir essayer de rentrer dans la ville. Et puis Moïse leur dit aussi qu'il est important de vérifier la qualité du terrain, savoir si on peut cultiver, connaître la végétation, si elle est pauvre ou si elle est luxuriante. Et bien sûr, ramener des preuves, et c'est ce qu'ils vont faire. Porter à deux des grappes de raisin, ça devait être des sacrées grappes, hein. Je ne sais pas ce que c'était comme raisin, des raisins blancs, des raisins noirs, je ne sais pas. Mais porter à deux, ça veut dire que il y avait de l'abondance. Et je trouve qu'on perçoit en Moïse un vrai chef. Un vrai chef parce qu'il s'est dirigé, il s'est donné, je dirais, les bonnes consignes. Des consignes qui sont appropriées à la situation, appropriées à la mission. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Alors au verset 25, il est dit qu'après 40 jours, les 12 espions reviennent, donner leur rapport, bien sûr. C'est raconté donc du verset 26 au verset 33. Alors le rapport commence très bien, hein. Puisqu'ils montrent les fruits qu'ils ont trouvés, ils les ramènent et ils les montrent. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a une forme d'optimisme dans ce début de rapport. Malheureusement, l'enthousiasme va vite se dégonfler. Il va vite s'essouffler, puisque dès qu'il commence à décrire les habitants, là, ça ne va plus. Et oui, au verset 28, ils expliquent « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. » Sous-entendu, trop puissant pour nous. On ne va rien pouvoir faire. C'est impossible. Alors bien sûr, quand ils parlent des enfants d'Anak, ils sous-entendent des géants, comme ils le décriront d'ailleurs au verset 33. Et beaucoup plus tard, d'ailleurs, les Hébreux seront confrontés à l'un de ces géants, Goliath, bien sûr, qui très probablement était de cette région-là. Puis au verset 29, ils énumèrent donc les différents habitants. Là, je dirais qu'à ce moment-là, le décor est posé. Il n'y a plus rien à dire. C'est clos, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. À les entendre, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de tout abandonner. D'abandonner, en tout cas, l'idée de vouloir s'installer dans cette contrée. Parce que vous vous rendez compte, c'est... Oh là là, où est-ce qu'on va? Qui on va aller affronter? L'enthousiasme est tombé, l'inquiétude s'installe, mais parmi le peuple, forcément. Vous savez, c'est très facile d'inquiéter les gens. Dès qu'on commence à annoncer des mauvaises nouvelles, ça ne va pas. Vous n'avez pas remarqué, aux infos, il n'y a que ça, de toute façon, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Le résultat, les Français, on tire tous une tronche comme ça. Mais c'est obligé, on n'entend que des mauvaises nouvelles. Puis en plus, c'est les plus payantes, hein, parce que les bonnes, les gens, ils ne veulent pas les entendre. On a l'impression que les gens sont attirés par les mauvaises. Bref, le zèle a fondu comme neige au soleil. Enfin, c'est une façon de parler, parce que là-bas, pour la trouver, ce ne sera pas facile. Malheureusement, en ce qui nous concerne, est-ce que ce n'est pas parfois aussi notre cas? Est-ce que nous ne réagissons pas parfois de cette manière, et peut-être plus souvent qu'on ne le voudrait? On a toujours de bons arguments en prétendant qu'on a analysé objectivement la situation. Seulement quand on est en face de bonnes et de mauvaises choses, c'est toujours les mauvaises qu'on va choisir. Si on a une mauvaise situation, puis une bonne situation, ben la celle qui va nous frapper et qu'on va retenir, c'est la mauvaise. Et c'est elle qui va décider de nos décisions futures. Vous avez jamais remarqué ça? Seulement au verset 30, Caleb, lui, il réagit. Et il réagit fortement. Il ne peut pas supporter ce comportement défaitiste. Et je vous propose de lire d'ailleurs sa réaction. Il est dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Pour lui, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il n'y a pas à discuter. Pourquoi chercher midi à 14h? Dieu l'a fait, a fait cette promesse. Je vous donne ce pays. Pour lui, il ne cherche pas plus loin. Enfin, je dirais, quelqu'un qui regarde au-delà des apparences. Qui, par la foi, perçoit, je dirais, les bonnes choses que Dieu veut donner. Et que les yeux, bien sûr, ne discernent pas forcément. Le regard est très important et a beaucoup d'influence sur nos décisions. Ce que l'on voit, parfois, nous amène à des jugements qui sont erronés, parce qu'on oublie ce que dit la parole. On retient ce que l'on voit. Mais on oublie que la foi, elle, va nous permettre d'aller au-delà du regard. Relisons ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, hein, chapitre 11, verset 1, verset très connu, et qui nous parle de la vraie foi. Il dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a d'autres traductions qui disent, la conviction des choses qu'on espère. D'autres disent la garantie, ou le fondement, ou la réalisation des choses qu'on espère. Toutes ces traductions nous disent que c'est une façon de les posséder. Et Caleb a compris ça. Dans sa tête, le pays était déjà entre ses mains. De même que Josué. Tous les deux, ils avaient cette conviction, le pays était là. À portée de leur main. Cette foi, c'est la preuve, la démonstration d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors que les 10 autres espions, eux, ne s'arrêtent qu'exclusivement à ce qu'ils avaient vu, à ce qu'ils avaient entendu, à ce qu'ils avaient perçu avec leur sens. Et ils avaient oublié qu'au-delà du sens, il y a la foi. Qui nous permet de percevoir les vraies réalités. Pour revenir à Caleb, il est persuadé de la victoire, non pas sur un vécu, mais tout simplement sur la base de la foi, de la vraie foi. L'Éternel n'a-t-il pas promis ce pays de Canaan ? Où est donc votre foi ? On a l'impression que c'est ça qu'il veut dire. Où est donc votre foi ? Avec tout ce que nous avons vécu depuis qu'on est parti d'Égypte. Et c'est vrai qu'ils ont quand même vécu des choses extraordinaires, miracle après miracle. Entre les 10 plaies, la traversée de la mer, etc. Mais c'est prodigieux tout ce qu'ils ont vécu. Et on a l'impression que tout à coup, ils ont tout oublié simplement parce qu'ils ont vu des choses qui leur paraissaient insurmontables. Avec tout le vécu qu'ils ont eu. En ce qui nous concerne, combien de fois Dieu nous a-t-il aidés à diverses occasions ? Combien de fois est-il intervenu dans nos vies ? Puis un jour survient une difficulté, peut-être un peu plus importante que d'habitude. Et là, bizarrement, on a oublié, tout ce que Dieu avait fait avec eux dans notre vie, toutes les bénédictions qu'il nous a données. On est là en disant, bah oui, pour tel ou tel événement, effectivement, il a agi. Mais là, cette fois, je ne le sens pas. C'est pas possible. Il ne pourra pas. Quelque part, c'est nous qui décidons de ce que Dieu pourrait faire ou ne pas faire. C'est nous qui avons l'autorité sur Dieu, quelque part. Alors que l'autorité, c'est Dieu qui l'a dans notre vie. C'est Dieu qui l'a dans ce monde, l'autorité. Et d'un second, on décide que c'est lui qui pourra ou qui ne pourra pas. Quelque part, on se met au-dessus de Dieu. C'est inconscient, mais pourtant, c'est une réalité. Alors, je pense qu'à ce moment-là, là, Caleb, il doit passer pour un inconscient, là. Et il ne va pas bien, lui. Hein. Oh, avec ce qu'on a vu, oh là là, c'est impossible. D'ailleurs, leur réaction est d'ailleurs très, très épidermique, hein, puisque au verset 31, ils disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est trop fort pour nous. Il est plus fort que nous. » Finalement, la défaite est dans leur bouche, avant même d'avoir tenté quoi que ce soit. C'est extraordinaire quand même. Qu'est-ce qui est plus fort ? Ce sont les événements, ce sont les obstacles, ce sont les montagnes qui se dressent, ou bien est-ce que c'est Dieu qui est le plus fort ? La question est là. Que considérons-nous ? Et je pense qu'il faut qu'on se pose cette question aussi, nous-mêmes. De quel côté sommes-nous ? De ceux qui pensent que, comme les 10 autres, que le problème est trop important ? Qu'il est impossible de l'affronter. Parfois, on pense pouvoir aussi résoudre les problèmes par nous-mêmes, hein, par nos propres forces, par nos moyens humains. Seulement, voilà, c'est que dans certains cas, les mois passent, les années passent, et non seulement le problème est toujours là, mais il a grandi, devenant à nos yeux, j'allais dire, insurmontable. Parce qu'on n'a pas osé l'affronter avec l'aide de Dieu. Au lieu de ça, on a essayé de se dépatouiller par nous-mêmes et on s'est embourbé. Vous savez, c'est de la même façon que quand on est dans des marécages. Plus on se débat, plus on s'enfonce. Ouais. Vous êtes dans les sables mouvants, on dit toujours essayez de vous allonger pour qu'il y ait le maximum de surface qui est porte sur les sables mouvants pour éviter de s'enfoncer. Au lieu de ça, on se débat, ben, en se débattant, on s'enfonce. Et là, c'est la cata. Et nous sommes parfois, ben, comme ce peuple d'Israël, enthousiastes au départ, quand on commence à faire quelque chose. Quand on nous propose aussi, de conquérir le monde, conquérir notre famille, de conquérir nos voisins, de conquérir nos collègues de travail, conquérir nos copains d'école pour les plus jeunes. Et quand les difficultés ou les obstacles surgissent, ou quand ils grandissent, eh bien, nous capitulons, et cela malgré les promesses que Dieu nous a faites. Et cela malgré le vécu que nous avons eu, des bénédictions que nous avons bénéficiées. Ou alors, étude, où sommes-nous de ceux qui, comme Caleb et comme Josué, bien sûr, que Dieu a la réponse à notre problème, à votre problème. Lorsqu'il nous fait une promesse, il tient parole. Est-ce que nous le croyons, ça ? Lorsque nous faisons sa volonté, je dirais qu'il prépare le sentier. Je voudrais juste vous lire deux passages dans Isaïe. Le premier, c'est Isaïe 42, verset 16. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. » Il est celui qui peut nous conduire dans des endroits que nous n'aurions pas imaginés. Nous faire bénéficier de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Faire passer par des sentiers qu'ils ignorent. Et c'est vrai que parfois, on se comporte comme des aveugles, parce qu'on se laisse porter par notre imaginaire, et on oublie qu'il y en a un qui domine tout cela, et que lui peut nous diriger. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Bah, écoutez, il n'y a pas plus bel espoir. C'est extraordinaire. La lumière est devant nous. Le deuxième passage, c'est dans Isaïe, chapitre 43, versets 16 et 17. « Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que le texte, enfin, le français reproduit bien ce côté poétique. Il y a un côté poétique. C'est dramatique, hein, la situation. Elle est dramatique quand même. Hein. Vous savez de quoi il parle. Les Égyptiens. Ils sont partis avec leurs chars. L'armée la plus puissante traverse la mer et puis là, ils sont engloutis. Mais soudain, couchés ensemble pour ne plus se relever, c'est terrible, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que cette réalité permit au peuple d'Israël d'être libéré définitivement de l'esclavage. On peut dire par la poésie des choses terribles. Parce que là, il y a certainement eu des milliers de morts. Là. Est-ce qu'on peut s'en réjouir ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça a eu le bénéfice pour le peuple d'Israël d'être libéré définitivement de l'esclavage. Amen. Ah oui, c'est vrai que ce passage, c'est bien présenté, c'est bien tourné, je dirais. Ça montre aussi le côté spectaculaire de la délivrance. Parce que Dieu aussi fait des choses terribles, extraordinaires, mais parfois terribles. Voilà ce que Dieu peut faire dans une vie. Voilà ce que Dieu peut faire dans chacun d'entre nous, dans chacun d'entre vous et en moi. Alors, à part Caleb et Josué, ben, tous les autres font pression, bien entendu, sur le bon sens. Voyons, soyons raisonnables, réfléchissez un petit peu. On vous a décrit la situation, elle est insurmontable. Admettez l'évidence. En tout cas, cette évidence crée un mouvement de panique, forcément, parmi le peuple. Et puis, au chapitre 14, verset 1, il est dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Alors, la situation peut paraître ridicule, quelque part. Hein. Quand on analyse, on se dit « Mais non, c'est pas possible, ces gens-là. » Mais je me dis, et nous, dans les mêmes circonstances, dans le même contexte, à la même époque, comment aurait-on réagi ? C'est la question qu'on peut se poser. Hein. Parce que, avec le temps, on se dit quand même, bon, franchement, pauvre peuple, ils étaient incrédules, mais c'est pas possible de se comporter de cette manière-là. Mais qu'est-ce que nous aurions fait ? C'est ça qui est important, parce que c'est nous qui sommes concernés, hein, d'une certaine manière. Hein. Mais je dirais que le côté lamentable de la situation n'est pas dans la réaction du peuple, mais plutôt dans la façon dont les espions ont rapporté les événements. Parce qu'ils sont fortement responsables, ces gens. C'est eux qui ont déclenché la chose. Ils ont volontairement amplifié les problèmes pour convaincre le peuple de ne pas entrer en Canaan. Le peuple élève la voix, il demande à changer de chef, et même à retourner en Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on en est là. On en est là. Les seuls qui aient objectivement, je dirais, compris la situation, et surtout gardé la foi en l'Éternel, ce sont Caleb et Josué. D'ailleurs, il est dit au verset 6 et 7 qu'ils déchirèrent leurs vêtements et qu'ils parlèrent au peuple. Caleb prend la parole au verset 8, il dit « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays où coule le lait et le miel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » Ouf. Impressionnant le bonhomme. Hein. Et là, il parle au futur. Hein, car pour lui, c'est une certitude. Les choses vont arriver. De toute façon, elles sont là. Elles sont acquises, d'une certaine manière. C'est ça, la vraie foi. C'est d'acquérir les choses qu'on ne voit pas encore. Mais elles sont là. Elles sont acquises. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Là, il parle au présent. Parce que là, c'est fait. C'est acquis. C'est peuple. C'est à nous. On les aura. C'est terminé. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Josué et Caleb perçoivent d'abord ce qui est positif. Ils retournent la difficulté en victoire. Belle foi, quand même. Une belle démonstration de foi. Mais le problème, le peuple se laisse manipuler par les 10 autres. C'est vrai qu'à deux, ils ne font pas le poids. Malheureusement, les autres sont 5 fois plus. Et vous savez bien que c'est toujours le nombre qui a raison, malheureusement. Et ils veulent les lapider. Ils veulent les lapider. Et là, Dieu intervient, parce que lui, il commence à l'avoir. Il dit, mais c'est pas possible, quoi. Oh là là, ça. Mais où va-t-on ? Verset 11, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux ?» Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en s'attaquant à Moïse, ils s'attaquent à Dieu. Parce que quand Moïse parle, il parle de la part de Dieu. Le message, il vient de l'Éternel, il vient de Dieu. Il ne vient pas de sa propre initiative. Aller dans ce pays, c'était Dieu qui le voulait. C'était lui qui voulait que son peuple aille dans ce pays, qu'il ait enfin un pays à lui, une contrée à lui, qu'il puisse s'épanouir, y vivre. Et suite à cela, au verset 12, il est dit que Dieu veut faire mourir le peuple. Alors là, il y a un échange assez serré entre Moïse et Dieu. Ça ne vous rappelle pas un autre échange aussi ? Entre Abraham et Dieu, à propos de Sodome et Gomorre, il y a un échange serré. Et puis finalement, c'est Moïse qui non pas remporte la victoire, mais qui arrive à convaincre Dieu de ne pas le faire. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais Dieu va, malgré tout, faire en sorte que la génération des plus de 20 ans ne connaisse pas, c'est ce qui était écrit. Hein. La génération des plus de 20 ans ne connaîtront pas ce pays. Dur quand même, mais quelque part ils l'ont bien cherché, quoi, malheureusement. Et entre autres, tous les hommes qui sont partis là-bas. Il n'y a que les deux, Caleb et Josué, qui iront dans ce pays. Tous les autres mourront avant. Puis on lit dans Josué, chapitre 14, verset 6, lorsque Caleb s'adresse à Josué, 40 ans plus tard, comment il a fondé par la foi cette déclaration. Tu sais ce que Dieu a déclaré à Moïse, homme de Dieu à mon sujet et au tien. Et puis au verset 7, il m'envoya pour explorer le pays que je lui fis un rapport avec droiture de cœur. C'est important aussi d'avoir un état d'esprit particulier. Être droit et juste dans ses valeurs et dans les appréciations qu'on va donner à Dieu. Il dit exactement ce qu'il a vu. Il n'amplifie rien. C'est ça, sa droiture de cœur. C'est d'avoir dit exactement ce qu'ils avaient vu. Ce verset, d'ailleurs, relève comment Caleb manifeste sa sincérité avec lucidité, je dirais, d'un homme qui a vu les difficultés, les problèmes, les montagnes qui se dressent, les géants qui étaient là, ce qui se présentait. Mais il les a vus à leur juste mesure. Il n'en a pas fait un pays insurmontable. Il a dit ce qu'il avait vu, point final. L'avantage, c'est que lui, il était persuadé que Dieu était plus grand que tout cela. Plus grand que les obstacles, plus grand que les oppositions, et cela, quelle qu'elle soit. Est-ce que nous croyons que Dieu est plus grand que les problèmes que nous pouvons parfois rencontrer, qui viennent à nous parfois sans qu'on les ait demandés? C'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est ce qu'affirme d'ailleurs l'apôtre Jean dans sa première épître, 1 Jean chapitre 4 verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il savait de quoi il parlait lui aussi. Celui qui est dans... qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Caleb s'est personnellement approprié la promesse de Dieu que Dieu avait annoncée dans Deutéronome, chapitre 11, verset 24. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Verset d'ailleurs qui sera renouvelé, bien sûr, dans Josué, au chapitre 1, verset 3. Caleb ne s'est pas dit « On est 12 ?» Il y en a bien un qui aura la foi pour moi. Il y en a bien un qui va faire un rapport positif. Non, non. Il a pris l'initiative. Il a dit, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce qu'on a rencontré. Mais il y a tellement de bonnes choses. Les mauvaises choses, Dieu va s'en charger. Mais les bonnes choses, moi, je les ai vues, moi. Lui, il a vu ce qui était positif. Chacun de nous, nous devons nous accaparer les promesses de Dieu, et non pas que ce soit les autres à notre place. Alors c'est peut-être un peu égoïste, mais je trouve que c'est une bonne forme d'égoïsme. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça nous permet de rentrer personnellement dans ses plans. Ça nous permet de personnellement de rentrer dans ses promesses et d'être participants à ce que Dieu veut faire pour nous personnellement et pour notre Église, pour votre Église. Le salut ne s'acquiert pas par procuration. Les promesses ne s'acquièrent pas par procuration. Elles ne s'acquièrent que personnellement, volontairement, parce qu'on l'a choisi et qu'on l'a voulu. Il faut prendre les problèmes entre quatre yeux et se dire que c'est Dieu qui va s'en occuper. Peut-être que certains se disent, oui, mais c'est facile à dire. C'est vrai, c'est facile à dire. Mais je pense que c'est aussi, par la foi, possible de le faire. Ensuite, au verset 8 de Josué 14, Caleb dit, « Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. » Ce verset appelle à la fidélité, à l'obéissance et à la soumission, comme l'a vécu bien sûr Caleb. Fidélité malgré la peur. Et l'hésitation des autres. Parce que forcément, quand vous avez 10 personnes, on n'est que 2, et que les 10 autres disent le contraire et sont pessimistes, il faut de la volonté et de la force de caractère pour continuer à persévérer et à dire « Non, je ne suis pas d'accord. » C'est pas évident. « ne pas se laisser entraîner, ce n'est pas facile. Ensuite, au verset 9, Caleb continue son discours. « Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tous tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Croire aux promesses et entrer dans ces promesses contribue à sceller, je dirais, notre salut acquis par la foi. Dieu nous fait grandir de cette manière-là et ne peut nous faire grandir que de cette manière-là. Pour conclure, je dirais que Caleb et Josué sont des exemples pour nous. Ils sont des exemples individuellement, mais aussi collectivement, c'est-à-dire dans le cadre éventuel de votre Église, de mon Église. À Saint-Étienne, il y a eu des promesses. Et c'est vrai que parfois, on se dit, mais quand est-ce qu'elles vont s'accomplir, ces promesses ? Quand est-ce qu'on va les voir s'accomplir ? Mais on se dit que Dieu tient toujours ses promesses. Même si on ne les voit pas encore, il tient ses promesses. Même si les choses tardent à se concrétiser, le temps n'a aucun pouvoir sur l'accomplissement des promesses, à condition de persévérer dans la foi, dans la prière, et Dieu pourvoira. Soyons sincères comme l'a été Caleb, face aux difficultés. Sachons reconnaître la dimension des choses à leur juste valeur, et non pas les amplifier, ne pas en rajouter. Parfois, nous avons peur du futur. On a tous peur du futur quand on entend les actualités, quand on voit ce qui s'y passe dans ce monde aujourd'hui. C'est vrai, quelque part, ça fait peur. On se dit, qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants ? Qu'est-ce qui va se passer pour nos petits-enfants ? Nous avons 6 petits-enfants. Nous avons 4 enfants et 6 petits-enfants. Mais c'est vrai que moi, des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais dans quel monde ils sont nés ? Qu'est-ce que le monde leur réserve ? Mais d'un autre côté, je me dis, mais on a un Dieu auquel on peut faire confiance, auquel on peut appuyer notre foi. Et lui, il a la solution. Lui, il sait ce qu'il faut pour eux. Il faut que j'arrête de me tracasser comme ça. Il faut que j'arrête de me poser des questions en me disant, mais qu'est-ce qui va leur arriver ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Il a tout porté sur la croix. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos soucis, il a porté aussi tous les événements futurs que nous vivrons, que nos enfants ou nos petits-enfants vivront. C'est lui qui porte tout cela. Amen. Et c'est vrai que on cherche toujours des faux prétextes pour ne pas affronter les événements parfois lorsqu'ils se présentent. Ayons la foi que Dieu est bien plus grand que tous les obstacles. Manifestons notre fidélité dans ce Dieu que Dieu veut pour nous-mêmes, pour vous-même. Sommes-nous concernés ? Êtes-vous concernés par ce que Dieu veut faire ? Et pour les autres. C'est aussi un peu pour ça que je me suis mis aussi dans l'aumônerie, parce que je trouve que c'est important aussi de s'occuper des autres, des gens qui sont malades. Alors des fois, ça ne se voit pas, parce qu'en psychiatrie, la maladie ne se voit pas forcément. Ça se passe dans leur tête, et puis parfois, c'est difficile. Vous savez, il y a beaucoup de tentatives de suicide. Ce n'est pas forcément des psychoses ou de névroses ou de la paranoïa, etc. Non, ce n'est pas ça, pas forcément. Ça peut être simplement un ras-le-bol. La vie est devenue tellement pesante sur eux, tellement oppressante, et qu'il y a des tentatives de suicide. On a vu une gamine, pour moi c'est une gamine, 16 ans, qui avait fait déjà 6 tentatives. Je peux vous dire que, après, il faut digérer, quoi. Il faut digérer ça. Mais est-ce que tu n'as pas quelque chose auquel tu peux t'accrocher ? Non, il n'y a rien. Vous savez, on se dit, on ne peut rien, il y en a un qui peut. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle puisse aussi donner un petit accès, une petite ouverture dans son cœur, pour que lui puisse rentrer et commencer à faire le ménage et apaiser, mettre un baume de grâce dans le cœur. Mais c'est pas facile, hein, je peux vous dire. Et puis des personnes aussi, personnes de 65 ans, qui ont des petits-enfants. Et pareil, un ras-le-bol, tentative de suicide. Dur, hein ? Je pensais qu'à un certain âge, on arrivait à se poser, à se calmer et à se dire, voilà, je me consacre à les petits-enfants. Donc c'est un bonheur d'avoir des petits-enfants, mais en même temps, bah, voilà. Caleb était entièrement soumis à Dieu pour entrer dans les plans du Seigneur. Et ça, c'est pas facile non plus de se soumettre. Je veux dire, c'est lui le maître. C'est lui qui décide. Mais à partir du moment où on part de ce principe que c'est lui qui décide et que c'est le maître, alors les choses se font. Tant qu'on considère que c'est nous les maîtres de notre vie et de notre futur, ça va partir à volo, ça va partir dans tous les sens, et pas forcément dans le sens que nous, on voudrait, ou que même Dieu voudrait, d'ailleurs. Loin de là. Au verset 10, on voit aussi que la persévérance lui a permis de vivre les promesses que Dieu avait prononcées dans Nombre 13, et enfin le zèle qui sera porté, alimenté, bien sûr, par tout cela. D'ailleurs, Dieu récompense toujours les personnes fidèles. Comme il est dit 45 ans plus tard, lors du partage du pays, Josué 14, verset 13, « Josué bénit Caleb, fils de Jéphunné, et lui donna Hébron pour héritage. » Est-ce qu'il avait imaginé ça avant? En allant dans le pays Canaan. Vous vous rendez compte? On lui donne pour héritage Hébron. Ça dépasse l'imagination pour lui. Ça va au-delà de ce qu'il aurait pu espérer. D'abord, est-ce qu'il espérait quelque chose pour lui-même? Non, je ne pense pas. Ce qu'il espérait, c'était réaliser ce que Dieu avait dit et promis. C'était ça, sa priorité. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à Dieu. Et il a pensé à ce que Dieu voulait faire pour son peuple. Et il en a bénéficié. C'est l'accomplissement, j'allais dire, total des promesses. Après des périples difficiles, bien sûr, il y a eu quand même pas mal de batailles, pas mal de guerres. En verset 14, il dit « C'est ainsi que Caleb a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. » C'est le fruit de sa persévérance, c'est l'expérience de la foi dans la durée. Parce que ça, c'est aussi important. Avoir la foi, c'est important, mais il faut que cette foi puisse durer et rester, s'alimenter et augmenter et grandir. Parce qu'il avait pleinement, comme il est dit, suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Enfin, le résultat à sa soumission. Enfin, le résultat à sa foi. Enfin, le résultat à sa confiance en Dieu. Et à cette obstination, parce qu'il était obstiné, il était têtu. Et il avait raison. Il avait raison d'être têtu. Je crois que les événements se vivent dans la plénitude de la parole de Dieu, à condition que nous soyons volontaires pour entrer dans les promesses de Dieu. Amen.
On va partager le repas du Seigneur, on n'est pas très nombreux, on peut se rapprocher.